Conférence de fin d'année 2023 à Fountain Valley. Parole de conclusion. Réunion 13B. Ça doit être une réunion de conclusion. Et tout le monde, ensemble, a présenté une conclusion. C'est bien. Vraiment bien. On aime utiliser cette parole, vraiment, vraiment, vraiment. Bien sûr, je crois que tout ce que tu as dit, tout ce que tu as partagé est vraiment vrai. Mais si tu accentues trop souvent vraiment, je vais poser la question vraiment. Parce que si c'est vrai, tu n'as pas besoin de dire vraiment. Parce que tout ce que nous disons doit être véritable. De temps en temps, ça va. Comme le Seigneur qui a dit Amen, Amen, je vous le dis. Mais il n'a pas dit chaque phrase Amen, Amen, je vous dis Amen, Amen, Amen. N'en fais pas une habitude. C'est bien mieux si nous nous exerçons que toute parole qui sort de notre bouche est vraiment vraie. Mais tu n'as pas besoin d'utiliser le mot « vraiment » si c'est vraiment vrai. C'est très, comment vous dites, contagieux. Ainsi, si chacun l'écoute vraiment, alors, bientôt, après un petit moment, chacun utilisera ce mot « vraiment ». Nous n'avons pas besoin de cela. Parce que chaque parole qui sort de notre bouche est vraie et doit être vraie. Je n'ai pas besoin de te convaincre, mais nous devons tous savoir que tout ce qui sort de notre bouche vient de notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vraiment. Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Ce n'est pas notre langage. Ainsi, c'est un exercice d'être en esprit. Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, le Seigneur et John n'a pas répété vraiment, vraiment. Et vraiment, c'est la parole de Dieu. Et vraiment, c'est le témoignage de Jésus. Et vraiment, ce que tu écoutes, la parole, vraiment, véritablement, ce serait un petit peu vraiment étrange. Nous devons tous apprendre. Et je le pense vraiment. Louez le Seigneur pour la conclusion. Ces trois chapitres sont si courts. Et même chaque épître est très courte. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'avoir une conclusion supplémentaire. Mais ce que nous devons voir et garder dans notre tête et notre cœur et avoir le désir, puisque nous sommes un chandelier, puisque nous pratiquons le sacerdoce, nous devons accentuer, nous centrer sur ce grand souverain sacrificateur. Nous avons besoin de lui. J'apprécie ce que notre frère a dit brièvement. Si nous n'avons pas ce grand souverain sacrificateur qui marche au milieu de nous, il ne dort pas juste là, ou il ne se promène pas simplement. Qu'est-ce que tu penses qu'il fait lorsqu'il marche au milieu des églises? Peux-tu imaginer ce souverain sacrificateur qui entre dans le lieu saint et qui marche là au milieu, qui regarde ici et là, et puis qui s'en va de nouveau? Non, il est occupé. Imagine spécialement la condition qu'il a mentionnée. C'est 7. Il y a plus que 7 églises à cette époque. Mais dans sa sagesse, il a pris 7 églises. Et je veux répéter que ce chiffre 7 est un chiffre très important. Parce qu'il décrit, il nous décrit l'action de notre Seigneur. Ils ont dû tourner autour de Jéricho 7 fois, par exemple. Et Naaman, combien de fois a-t-il dû se plonger dans le Jourdain pour être guéri? Aussi 7 fois. Et combien de semaines de Daniel, chapitre 9, est-ce que le Seigneur a séparé pour accomplir son plan avec Israël, son peuple, et avec la ville sainte? Combien de semaines? 70 semaines. Et combien d'années est une semaine? 7 ans. Et qu'en est-il de la dernière semaine? C'est combien d'années? 7. 7 années. Aussi, il y a beaucoup de fois le chiffre 7. Et chaque fois qu'il est mentionné, il parle de l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. Ça commence dans Genèse 1. Combien de jours sont mentionnés dans Genèse 1? 7. Et le septième jour, c'est le jour du sabbat. Dieu a terminé son œuvre. Ainsi, le chiffre 7 est très important. Spécialement dans le livre de l'Apocalypse. Même son action, c'est 7 sauts, 7 trompettes, 7 coupes. Ce chiffre 7 est important. Il y a 7 esprits, 7 yeux. Que font les 7 yeux? Ils dorment? Non. Certainement pas. Ça ne veut pas dire que le Seigneur a 7 yeux intensifiés. Non. Ça veut dire que dans l'œuvre de Dieu, il voit tout. C'est pourquoi il dit « Je sais ». Tout ce que nous faisons à Sion spécialement, à Vancouver, tout ce que nous faisons, il le sait, il le connaît, il connaît tout. Bien et mal. Il connaît. Même dans ma vie personnelle, il sait tout. Le Seigneur sait. Rien n'est caché devant lui. Même les intentions et les pensées du cœur et sa parole, spécialement quand nous venons à sa parole, que se passe-t-il? Non seulement elle sépare l'esprit de l'âme, mais même les jointures de la moelle, elle entre profondément dans les profondeurs de notre être. Il connaît tout. Ne pense pas que tu puisses lui cacher quelque chose à ce grand souverain sacrificateur. Mais son intention, en tant que grand souverain sacrificateur céleste, merveilleux, il marche au milieu des églises. Son but n'est pas d'exposer, mais de guérir. Mais pour guérir, il faut exposer Quel est le problème? Souvent, je ne connais pas même mon propre problème. Ainsi, je dois venir à lui. Il est le Dieu qui sonde les parties intérieures, le cœur, qui est la partie la plus importante de ton être. Mais la plupart du temps, quand tu as des problèmes de cœur, tu ne le sais même pas. C'est très bien de faire attention à ce grand souverain sacrificateur qui nous aime. Christ aime l'Église. Souviens-toi de cela. Il veut faire de nous aussi, et que nous aimions aussi l'Église, que nous aimions les uns les autres. Je suis si heureux lorsqu'il traite les Églises, comme beaucoup de frères et sœurs l'ont mentionné, bien qu'il soit un tel souverain sacrificateur. Et quand Jean l'a vu, il ne l'a pas embrassé. Comme lorsqu'il était le plus jeune parmi les apôtres, les disciples en ce temps-là. Mais il est tombé comme mort devant ses pieds, à ses pieds. Cela nous montre la crainte du Seigneur est très importante. Nous devons le respecter. La crainte de l'Éternel. Que nous dit Hébreux 12? On doit servir Dieu de manière acceptable, avec révérence, avec crainte. Sans crainte. Ne fais pas juste n'importe quoi pour Dieu. N'apparais pas juste devant Dieu. Comme un hippie, par exemple. Vous connaissez les hippies.
Are you a hippie Christian?
Es-tu un chrétien hippie? Les jeunes ne savent pas ce que c'est. J'ai vécu pendant le temps du mouvement hippie. Et chaque année, quand je venais à Los Angeles, j'étais à Los Angeles de 68 à 71, je crois. Il y avait un mouvement chrétien qui s'appelait des chrétiens hippies. Je ne les critique pas, mais c'était vraiment bizarre. Peux-tu imaginer les 12 disciples du Seigneur sont des chrétiens hippies? Et je suis allé à quelques réunions. Vraiment, dans le but non pas de les épier, mais j'avais amené de la littérature pour leur donner. Et leur responsable, après la réunion, m'a dit, « Que fais-tu ici? Tu veux voler les brebis? Est-ce que tu es venu pour voler les brebis? » J'ai dit, « Non. Je viens ici et j'ai amené quelques livres pour que vous puissiez les lire. » C'est surprenant. Et la chose la plus étrange, c'est que nous trois, les frères qui sommes allés là, j'ai un petit peu de temps pour vous raconter une histoire. C'est la vraie. C'est la vérité. C'est vraiment la vérité. Trois frères sont allés. Et il n'y avait plus de place pour s'asseoir. Ainsi, de la place au milieu de certains qui étaient assis par terre. Ainsi, on s'est assis là, par terre. Et à ce moment-là, quelqu'un amener une personne possédée
and asking
et à demander
the leader, the pastor,
au pasteur, là, au conducteur, de chasser le démon.
And it was so strange.
Et c'était si bizarre.
And the pastor started
et le pasteur a commencé à demander, quel est ton nom?
Just like what
exactement,
Jesus asked
comme Jésus a demandé,
what is your name?
Quel est ton nom?
And he laughed so terrible.
Il a ri de manière tellement terrible. Je ne veux même pas vous expliquer. Je ne vais pas vous le dire, mais je veux dire quelque chose d'autre. Il a dit d'une manière bizarre, dans cette chambre, il y a seulement trois vrais chrétiens. Quand j'ai entendu ça, dans mon cœur, j'ai lié l'ennemi. Bien. Trois vrais chrétiens ici. Le pasteur a dit, montre-moi qui c'est. Et cette personne bizarre qui rigolait d'une manière bizarre lui a dit, je ne vais pas te dire. Je ne te dirai pas. Allez, vas-y, montre-les-nous. Je ne te dirai pas. Et ce pasteur n'était pas heureux. Il était fâché. Sors-le d'ici. Sortez-le d'ici. Ce que je dis, c'est que bien que nous soyons tous chrétiens, mais l'ennemi reconnaît, nous reconnaît. Pas que nous soyons spéciaux. On ne se considérait même pas comme les seuls vrais chrétiens. Mais l'ennemi sait. L'ennemi sait. Comme dans Apocalypse 12, Satan, le dragon, ne se préoccupait pas de la femme, bien que cette femme, c'est le nombre entier du peuple de Dieu, d'Abel jusqu'à la résurrection, ceux qui sont morts. Mais Satan est effrayé par cet enfant mâle. Il veut dévorer l'enfant mâle. La partie qui vint. Nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous le peuple de Dieu. Mais ce que l'ennemi, ce dont il a peur, c'est cet enfant mâle. Il y a tant de chrétiens aujourd'hui. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des chrétiens. Et je ne veux pas les critiquer. Qui suis-je pour les critiquer? Mais il y a une bataille qui se passe. Il y a tant d'églises, mais les chandeliers, est-ce qu'ils sont en or? Est-ce qu'ils brillent? Est-ce qu'ils ont la vie de résurrection? Sont-ils vivants? Sont-ils pleins de vie? Remplis de l'Esprit? Et je ne parle pas des pentecôtistes, de cette manière d'être rempli de l'Esprit. Non, je parle du vrai esprit de vie, de vérité. C'est ce que veut dire l'Église. Les chandeliers d'or, comme Zacharie 4 dit, qui sont remplis d'huile. Souvenez-vous du royaume et du sacerdoce, les deux oliviers. Qui sont-ils? Zacharie demandait.
that constantly filled
qui remplissent constamment
the seven
les sept branches
of the golden
du chandelier d'or.
Et
il y avait une coupe d'or, et de cette coupe, il y a sept conduits qui vont vers chaque lampe. À nouveau, c'est le chiffre 7. Sept lampes. Mais de cette coupe d'or que remplissent les deux oliviers d'huile, remplissent d'huile d'or. C'est ce que dit Zacharie, c'est de l'huile d'or. Et ces deux oliviers représentent quoi? Le sacerdoce et la royauté.
Josué
et Zorobabel.
Et
au chapitre 6, si tu continues, tu vois qu'il y a deux ministères, la royauté et le sacerdoce. Ils sont un dans le Seigneur Jésus. Cette image merveilleuse, tu peux voir, doit être notre réalité aujourd'hui. C'est très sérieux. Ils accomplissent le plan de Dieu. Cela accomplit le dessein de Dieu. Ainsi, il faut connaître ce grand souverain sacrificateur. Souviens-toi de cette description, relis-la. La description est d'une telle manière qu'elle va te faire craindre le Seigneur. Personne ne craint l'agneau de Dieu qui est mort à la croix. Et tout le monde se moquait même de lui. Et ils se sont débarrassés de lui. Ils ont essayé. Mais ici, dans l'Apocalypse, ce grand souverain sacrificateur est décrit d'une manière telle que nous devons tous le craindre. De le craindre. Pas d'une manière nerveuse. Ça, c'est pas le point. Mais il faut réaliser que notre condition est bien loin d'être parfaite. La condition des églises, dans les 60 dernières années, je peux vous témoigner de vous tous, on a eu tant de problèmes dans les églises. Les églises ont tant de problèmes. Tous les problèmes mentionnés dans les sept églises ici ont été répétés. Et il y a Shebna qui remplace notre Seigneur en tant que tête. Ainsi, à la fin, chacun doit l'écouter. Si tu ne le fais pas, tu sors, tu pars. Si tu n'es pas d'accord, tu as des problèmes. C'est pourquoi, lorsqu'il y a tant de problèmes, de confusion, de choses mauvaises, ce soi-disant endroit, je ne veux même pas mentionner, personne n'osait rien dire. Parce que si tu dis quelque chose, tu perds ta position. Souvenez-vous, dans Ésaïe 22, il parle de Shebna, sa position. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce mot, position. Si vous l'avez fait, c'est bien. Est-ce que tu as une position dans l'Église? Quelle est ta position, Mo, à Toronto? Juste un frère et un compagnon. Dans le ministère? Non, dans la tribulation. Dans la patience de notre Seigneur Jésus-Christ.
But we need such a high priest.
Nous avons besoin d'un tel souverain sacrificateur. Sinon, tu n'as pas peur du Seigneur. Tu n'es pas effrayé. Ouais, tu n'as pas peur. Ce Christ, à cause de notre concept, vraiment, si nous n'avons que le concept des évangiles, tu ne le crains pas. Ok, je fais quelque chose de faux, je le sens pression. Et alors personne ne craint le Seigneur. Tu peux faire n'importe quoi. Mais si tu vois un sacrificateur céleste comme lui, comme un homme qui marche au milieu des sept églises, c'est l'ancien. Toi, tu n'es pas ancien. Tu es le plus jeune, n'est-ce pas? Et nous ne sommes pas assez vieux. Nous ne sommes pas anciens. Mais lui, oui. Il est depuis toujours, jusqu'à toujours. C'est ce que Michée dit. Celui qui est né à Bethléem. Il est quoi? Son origine est depuis les anciens temps. Ça veut dire que le Seigneur était au commencement avec Dieu. Ça veut dire dans l'éternité. Nous devons respecter une telle personne. Souvent, dans l'Église, on pense qu'on sait mieux. Est-ce que ton nom, c'est conseiller merveilleux? Conseiller John Yao. Non. Non. Conseiller.
Docteur.
Non, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien comparé à cet ancien. Déjà au chapitre 7 de Daniel, Daniel a vu la vision de celui qui est assis sur le trône et du Fils de l'homme qui vient vers lui. Comme dans les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, c'était déjà là dans Daniel 7. Et il est l'ancien. Si tu ne vas pas à lui, de qui vas-tu t'approcher si tu as un problème dans l'église? Le problème est que tu ne passes pas assez de temps avec lui. Tu veux une réponse tout de suite. Sinon, tu t'en vas et tu trouves une solution toi-même. Mais l'Urim et le Thummim sont sur la poitrine du souverain sacrificateur, dans le pectoral. Et lui, c'est notre Seigneur. Aaron est un souverain sacrificateur. Mais celui-ci, il n'est pas seulement souverain sacrificateur, mais céleste. Et il est même monté dans le tabernacle céleste qui n'est pas de cette création, qui n'est pas fait de main d'homme. C'est la place la plus élevée. Il n'y a jamais eu un tel ordre de Melchizedek. Si nous ne le voyons pas en tant que tel, et son visage qui brille comme le soleil, est-ce que tu peux regarder le soleil? Est-ce que tu oses regarder le soleil? Si tu regardes le soleil, tu deviens aveugle. Son visage brille comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Nous devons voir ce Christ. Nous devons connaître ce Christ. Pierre a vu un petit peu. C'est pourquoi il a dit, nous voyons, nous ne disons pas des fables, mais nous sommes des témoins oculaires de sa majesté. C'est pourquoi Pierre avait peur. Parce que c'est très différent du Christ avec lequel il marchait et avec lequel il parlait. Même ils se disputaient entre eux lorsqu'ils étaient avec Jésus. Qui serait le plus grand? Est-ce que tu oses de parler de qui sera le plus grand lorsque tu es avec Jésus? Même la mère de Jacques et de Jean est venue vers Jésus. Et le Seigneur lui a dit, que puis-je faire? J'aimerais que dans ton royaume, mes deux fils, l'un soit à ta droite et l'autre à ta gauche. Même la mère était impliquée dans ce combat pour la puissance, le pouvoir. Tu peux imaginer ça? Et qui doit être à droite et qui doit être à gauche? Ça, c'est un problème. Le pouvoir, la position. Nous n'avons aucune position. Nous n'avons pas besoin parce que chaque position est déjà occupée par Christ. Toutes les positions sont occupées. Tu as raison. Ah, si quelqu'un t'offre une position, tu dis non, il n'y a pas de travail.
Such a wonderful Christ.
Un Christ si merveilleux.
And if you want to be a messenger of the
Et si tu veux être un messager du Seigneur, sois sûr d'être dans sa main droite. Tu es sous son contrôle. Sous son contrôle.
Et
il ne va pas juste régner sur toi comme le gouvernement ici aux États-Unis. Parce qu'ils attendent le jugement. Ils attendent que la coupe soit pleine. La coupe d'iniquité. Alors, son jugement sera prêt. Mais ce n'est pas l'Église. Pas les chandeliers d'or. Il n'attend pas que tout soit un grand chaos pour venir et juger l'Église. En tant que grand souverain sacrificateur, il est là pour s'en occuper. Pour s'assurer qu'il y a de l'or, que c'est pur, saint. C'est pourquoi Philadelphie, il s'est montré en tant que le saint, le véritable. Il n'y a rien de faux dans notre Seigneur Jésus-Christ. Il est véritable, réel. Il est plein de substance. Ce n'est pas une doctrine. Le Dieu véritable, il est dit dans le... dans 1 Jean 5. Dieu nous donne la compréhension. Et ça, c'est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a rien de faux dedans. Je ne veux pas juste connaître quelque chose à son sujet, je veux le connaître. On connaît beaucoup à son sujet, mais combien est-ce qu'on le connaît? Nous voulons connaître ce Dieu véritable. Ce Dieu véritable. Et Jean essaye de nous aider à connaître ce Dieu véritable. Et il marche au milieu de nous avec des pieds qui sont comme de l'air ardent, si pur, si fin. Son jugement est juste, notre jugement. 9 fois sur 10, ou même je devrais dire 10 fois sur 10, est faux. Combien de fois j'ai dû me repentir? J'ai pensé que j'avais raison. J'ai pas tout de suite su que j'avais tort, mais 2 ans après, Je me suis dit, oh, j'avais tort. Il aurait été mieux. Il aurait été préférable que je le sache le jour d'après, comme ça j'aurais pu rectifier. Mais le jugement du Seigneur est toujours juste. Ses pieds sont comme de l'air ardent qui brille, qui brûle. Ça vient de la fournaise ardente. Toute cette description, nous devons l'avoir dans notre cœur. Nous devons l'avoir dans notre cœur. Alors, on n'osera pas juste faire n'importe quoi à Sion. Regarde ce qui s'est passé dans les jours de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel. Le peuple de Dieu, du plus grand prince, du plus grand gouverneur, les sacrificateurs, et les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le temple de Dieu? Ils adoraient des idoles. Chacun avait son idole favorite. Est-ce que tu penses qu'on ne va pas faire ça? C'est pourquoi chacun a sa doctrine favorite, son œuvre favorite, et chacun a fait de la compétition avec les autres, qui est le plus grand? Mais chacun de nous, on pense, oh, on est tous chrétiens, on est tous OK. Demande au Seigneur. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Seigneur. Mais je veux savoir comment le Seigneur regarde les choses sans partialité, sans favoritisme. Tout est clair. Le Seigneur doit nous montrer ce grand souverain sacrificateur. Alors, si on le suit, si on le connaît, on pourra être un chandelier d'or qui brille. Et qui en prend soin? Il en prend soin. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais on coopère avec lui. On l'écoute. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit nerveux. Oh, je ne vais rien faire depuis maintenant. C'est si merveilleux. Le Seigneur nous touche. Il a touché, pardon, l'apôtre Jean. Il n'a pas juste dit John, parce qu'il y en a trop. Mais l'apôtre Jean, il a dit, ne crains rien. D'un côté, nous le craignons, parce que nous l'aimons et le respectons. Mais de l'autre côté, ce n'est pas une crainte nerveuse, effrayante, non. Mais c'est plein de respect et d'honneur. Et plein d'amour. Si tu aimes quelqu'un, tu vas le respecter. Si tu aimes tes parents, tu vas les respecter. Sinon, tu vas argumenter avec tes parents tout le temps. Mais tu dois être reconnaissant que ton papa n'ait pas 7 yeux comme des flammes de feu. Mais notre Seigneur, oui. Et sa parole n'est pas toujours des paroles douces, mais de sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Nous aimons tous dire des choses qui sont plaisantes, que les saints aiment entendre. Mais lorsque le Seigneur a parlé aux 7 églises, est-ce que vous croyez qu'ils avaient envie d'écouter ces paroles? Est-ce que tu aimerais entendre en tout temps, j'ai quelque chose contre toi? Sharon, j'ai quelque chose contre toi. Mais si vraiment dans cette situation, alors le Seigneur va nous reprendre. Parce qu'il nous aime, il va aussi nous reprendre. Ça, c'est un amour véritable. Celui que j'aime, je le châtie. Et je le reprends. Ainsi, si le Seigneur te reprend, c'est parce qu'il t'aime. S'il te laisse faire tout ce que tu as envie de faire, est-ce que tu penses que c'est de l'amour? Non. Certainement pas. Mais il dit la vérité. Il est le véritable. Il est la lumière. Mais il est aussi amour. Celui que j'aime, je le châtie. C'est la dernière parole qu'il a dit. Le châtiment, c'est différent du jugement. Et nous avons besoin de beaucoup être disciplinés afin de croître de manière adéquate, afin de devenir mûr et atteindre le but ensemble. Ainsi que le Seigneur impressionne nos cœurs. Il nous montre ce souverain sacrificateur merveilleux qui marche au milieu des champs de l'idole. C'est notre salut. Loué Dieu.
Amen.
Merci Seigneur de nous montrer que tu es ce souverain sacrificateur. Merci pour ton dessein. Nous prions que toutes les églises en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, sur toute la terre, que tu marches au milieu de nous, parmi tous les chandeliers sur la terre. Nous croyons en toi, que tu peux nous amener au but. Tu as promis de faire de nous des rois et des sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs. Nous croyons ta parole. Nous avons confiance en toi complètement. Tu le feras. Père, qu'à toi soit toute la gloire. Merci de nous avoir donné un tel souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Il est notre paix. Il marche au milieu de nous aujourd'hui.